Amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. C'était vraiment merveilleux ce début de culte. Franchement, j'étais bien à ma place. Mais bon, il faut assumer aussi. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un bon moment qu'on va partager là, sur un sujet qui n'est pas forcément commun ou pris de cette façon-là, sur la concentration. Et donc, si tu veux passer la première diapo, Givor. Et donc avec Jean-Luc, c'est le poids des mots, le choc des photos. Et la concentration, l'anti-zapping. Et en fait, j'étais interpellé dans ma vie. Hein. Cette semaine, j'entendais Robert qui disait, je prêche à ma paroisse. En fait, souvent, on prêche pour nous-mêmes en premier. Et les choses qu'on prend, on les a vécues. Et on continue aussi de les vivre. Et la concentration, on a un tas d'outils, innombrables, de méthodes, de solutions qui peuvent nous éloigner du but, de l'objectif que le Seigneur a prévu pour nous, quoi. C'est, je crois, un petit peu un mal de ce siècle que d'offrir beaucoup de diversité d'informations et d'expression. Et en fait, comme on est par nature des gens distraits, je lisais ce matin au hasard, comme ça c'était dans Proverbe, que notre œil n'est jamais satisfait, il cherche toujours quelque chose. Et en fait, notre regard n'est jamais fixé, il focalise en permanence sur des choses et sur d'autres, quoi. Et puis on peut gamberger, partir à droite et à gauche, quoi. Et par rapport à ce qui m'est arrivé cette année, et puis forcément des temps devant Dieu, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Et à certains moments, le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas trouver là parce que tu ne cherches pas au bon endroit. Est-ce que ça vous est arrivé ça? Bon, il n'y a que moi? Non, il y a... Eh bien, parce qu'on se perd dans une multitude de détails. Et il y a quelques années, je commençais un livre. Le livre, il commençait, vous êtes sur votre lit de mort et vous faites le point sur votre vie. Et donc, n'attendons pas le dernier souffle pour dire bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que le Seigneur a des desseins, une destinée pour nous qui est vraiment... À la fois précise et taillée sur mesure pour nous. Et tout à l'heure, Robert a pris dans Éphésiens 1 et 2, en fait, il s'est arrêté juste avant un des versets que je voulais vous lire, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ, en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Focus sur les œuvres que Dieu nous a donné, enfin, qu'il a préparé lui-même d'avance afin que nous y entrions. C'est bon jusque-là? Et donc, de temps en temps, la zapette, il faut lui donner un coup de marteau dessus. En tout cas, éviter qu'elle nous distrait, qu'elle nous envoie dans des pensées, dans des choses carrément, même qu'on pense être bonnes et puis finalement on perd notre temps. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci, Guivard. Donc, votre attention est requise. Vous êtes avec moi? Oui, bon. En fait, il s'agit, oui, de notre attention et de la contrôler. Et Romains 12, versets 1 et 2 nous dit: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, le Seigneur nous enseigne à venir à lui, auprès de lui, chercher les choses qu'il a préparées d'avance, ce qu'il a pour nous de précis. Non pas ce qu'il a pour notre ami, notre voisin, même notre épouse. Et il y a différents objectifs que le Seigneur a placés dans notre cœur, qui peuvent être pour la journée, qui peuvent être pour l'année, qui peuvent être pour notre vie. Et c'est important de les connaître. Et c'est important après de garder le cap. Donc toute notre attention doit être portée sur une chose à la fois. Et vous pouvez faire l'expérience, vous commencez à travailler sur quelque chose. Alors j'ai mis, il paraît que les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur ce point-là. Mais je ne suis pas sûr. Enfin bon, après je me suis dit, parce qu'on nous dit, bah oui, non mais vous les hommes, vous pouvez faire qu'une chose à la fois. Bon bah ok, moi je veux bien, parce que je sais bien faire une chose, qu'une chose à la fois. Et les femmes, nos épouses, ben je me suis dit, bon, est-ce que c'est de l'adaptation? Parce qu'en fait, elles ont beaucoup de choses à faire. Du fait de la diversité de leur activité, une femme qui travaille, qui a une famille, qui a un mari aussi. Bon, elle peut avoir beaucoup de choses à faire. Alors que pour nous, on a peut-être simplifié les choses. On dit, ben non, je ne ferai qu'une chose à la fois. Et puis, nos épouses continuent d'en faire plusieurs à la fois. Bon, je n'ai pas la réponse, mais je pense de toute façon, homme ou femme, qu'il vaut mieux cibler notre activité sur une chose à la fois pour être sûr de bien la faire et d'aller jusqu'au bout. Et une attention sur les choses essentielles, sur les œuvres donc, que Dieu a préparées d'avance. Et donc, dans le texte là, de Romains, en fait, il est question d'un sacrifice vivant. Donc, c'est-à-dire s'offrir, offrir notre temps, offrir notre attention au Seigneur pour qu'il nous conduise dans ce qu'il a prévu, quoi. Et il nous a dit que c'est un culte raisonnable. Donc peut-être vous n'aviez pas lu le texte de cette façon-là, mais vraiment portez votre attention sur vraiment ce que Dieu a prévu. Et donc notre attention est facilement distraite. Et en fait, nos neurones, ils ont tellement de capacités qu'ils aiment à se distraire. Et puis un petit rien, nous voilà partis à regarder ailleurs. Enfin, moi, c'est mon cas, et ça a toujours été mon cas. Et je dois me donner une discipline. Quand j'ai, par exemple, une prédication à préparer, quand j'ai quelque chose à préparer, vraiment à ramener mon regard, mes idées, à ne pas penser à tout en même temps. Et... Il y a un tas de choses. Hein. Vous avez, par exemple, vous travaillez sur un écran, vous avez les mails qui arrivent. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce qui arrive là ? Il y a le smartphone qui envoie un petit bip ou quelque chose. C'est pareil, on a envie de... Et ce que j'avais vu par rapport au début, au moment où j'ai travaillé, et puis à maintenant, c'est que, en fait, dans une journée, on fait des quantités de tâches, quoi. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas tous ces outils-là. Donc, le matin, on savait ce qu'on allait faire. Hein, même si, à l'époque, j'étais déjà responsable de ce que je devais faire dans la journée, je savais ce que j'allais faire. Tandis que maintenant, ça arrive de partout. Et je me rappelle, j'avais, par exemple, une comptable à l'entreprise où j'étais qui commençait à m'envoyer des mails pour vérifier des factures. Et puis, il y en a une, je la voyais arriver, je dis, ça c'est bon, ouais, c'est de tête, je savais que c'était pas compliqué. Je répondais, ok. Et elle en envoyait derrière plein. Donc j'étais obligé de lui dire, écoute, à plusieurs reprises, je lui ai dit, tu peux les envoyer, mais je les regarderai toutes au même moment, parce que je ne peux pas me distraire de cette façon-là. Ouais, donc c'est important de reprendre le contrôle de notre temps, de notre attention, et viser la cible prévue pour le moment. Et vous savez que pécher, c'est rater la cible. Donc là, je reviens. Donc c'était déjà spirituel avant, mais je reviens à quelque chose peut-être de plus spirituel. Pécher, c'est rater la cible. Et on parle de marcher sur le chemin étroit. Il est très étroit, ni à droite ni à gauche. Et en fait, il est bien la question de concentrer notre attention sur les choses essentielles. Alors, je lisais de. Ah oui, j'ai acheté un petit livre. Là, c'était vraiment le hasard sur le contrôle de l'attention qui est pour les enfants et pour les grands aussi, parce que les choses sont vraiment bien expliquées. Et donc, comment le préparateur de Teddy Riner, vous le connaissez, c'est un grand champion de judo, une masse musculaire. Il disait en fait le muscle le plus puissant de Teddy, c'est son cerveau. Et en fait, forcément, le cerveau, c'est pas un muscle. Et c'était pour dire que même ce géant de muscles, ce qui faisait sa force, c'était son attention, sa concentration. Et donc, sans concentration, les choses secondaires vont passer avant les choses principales, quoi. Et ça peut être l'objet d'une journée, mais ça peut être l'objet d'une vie, quoi. Où les choses secondaires, ça nous consomme notre attention et notre temps, et on est donc absorbé par ça. Et à la fin de la journée, je me suis dit quelquefois, mais qu'est-ce que t'as fait, mon gars? C'était plein de petites choses, quoi. Bien sûr, j'avais travaillé, mais en fait, il a fallu toutes les noter une à une. C'est vrai que ça fait des choses multiples, mais on est perturbé par tous ces choses qui ont leur importance, mais qui sont secondaires et qui peuvent au final nous faire perdre notre temps. Et les voleurs de temps et d'attention s'appellent distraction. Et c'est vrai que la civilisation nouvelle, celle qu'on vit, c'est une époque de distraction. Et toutes les techniques mises à notre disposition sont faites pour nous distraire. Et tous les mécanismes de l'attention, ils sont connus. Et donc ces gens-là, ils mettent au point des appareils pour qu'on soit attiré à droite et à gauche. Et notamment par les images, quoi. Et donc, de ce fait, il faut connaître ce qui se passe, quoi, pour se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps, faire le point de temps en temps? Suivant. Et vraiment, on a besoin de Dieu pour nous aider à définir la cible de notre vie, la cible de nos journées. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelles sont les choses importantes que je ne dois pas rater aujourd'hui? Et c'est aussi le dessein, la destinée de nos vies, quoi. Et là, recherchant nos besoins essentiels, plus que nos désirs. C'est là le désir. On est parti dans tous les sens, là. Et donc, nous devons nous concentrer auprès du Seigneur, déjà, par exemple, dans Matthieu 6,6, il nous est dit: mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est question d'un isolement, d'une mise à part. Et donc, loin de l'agitation, seul, cœur à cœur avec le Seigneur, le téléphone peut sonner. Eh ben, on s'en occupera plus tard. Franchement, vous êtes en rendez-vous avec François Hollande, le téléphone sonne, vous n'allez pas y répondre. François, là, j'ai un petit coup de fil. Non, ben non. Non, c'est. Vous avez rendez-vous avec le Seigneur. Vous vous mettez vraiment à part, quoi. Et l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Combien de fois il nous est dit qu'il se retirait? Donc il se retirait tôt le matin, ou tard le soir, dans le désert, sur la montagne. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, surtout à 5 heures du matin. Si Jésus le faisait, il me dit que je peux bien le faire aussi. Et vraiment, le lieu secret, c'est un lieu important. Je ne sais pas si vous en avez, si vous avez trouvé vos lieux secrets, là où vous pouvez vous isoler. Ce sont des choses très pratiques, mais vous pouvez vous couper, vous isoler avec le Seigneur. Et ce n'est pas dans le brouhaha qui existe partout. Ce n'est pas dans la musique continue à tourner, mais ça peut être des chants chrétiens. Moi, j'ai fait l'expérience. C'était de la louange qui était dans ma radio. Le Seigneur me dit, mais ça n'est pas arrivé qu'une fois. Coupe le CD. Quand vous êtes sur la route, vous pouvez prier aussi pour avoir des moments avec le Seigneur. Alors c'est pas hyper, c'est pas hyper sur la montagne ou comment dans le désert. Là, vous êtes sur une route, mais vous pouvez être disponible quand même. Et donc ces moments sont vraiment très précieux. Et donc ne vous étonnez pas qu'il y ait aussi un tel combat, tel conflit, parce que Satan c'est ça. Il veut venir nous distraire par des pensées de droite et de gauche. Mais je peux vous dire que si le diable peut parler à travers nos pensées, il y en a un qui est bien plus grand que le diable, peut parler dans nos pensées. C'est le Seigneur. Le Seigneur peut parler dans nos pensées, nous diriger dans des choses précises. Et ces choses-là, c'est quand on les a vécues, quand on les a rencontrées, c'est vraiment un repos pour nous. C'est comme si le Seigneur avait dirigé un nouveau cap. Et donc là, on sait dans quelle direction chercher. Quand je vous disais là, le Seigneur m'avait repris en disant « Tu ne peux pas trouver parce que tu ne cherches pas au bon endroit. » Bon, refaisons un cahier des charges de ce qu'on recherche, précis, et là, je me suis aperçu qu'effectivement, on pouvait s'éloigner facilement de ce qui était prévu au départ. Donc, il était important de le repréciser. Et puis, il y a le lieu secret, puis il y a le moment secret ou le moment précieux que vous pouvez offrir au Seigneur. Là où vous êtes concentré. Donc, c'est là... Le moment le plus propice où le Seigneur peut vous parler, où vous êtes réceptif. Donc c'est pas facile forcément de couper. Donc pour moi c'est plus facile le matin parce que j'ai pas commencé la journée. Il n'y a pas de soucis à venir. Il n'y a pas de tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et le soir, il n'y a pas le stress de la journée non plus. Mais ces moments précis, ces moments précieux. C'est important de les reconnaître. Et si vous ne les trouvez pas, continuez de chercher parce que c'est sûr que vous avez des moments où le Seigneur pourra vous parler, vous serez disponible. Mon premier pasteur, je sais, il répétait souvent ça, ne donnez pas les miettes au Seigneur. Donnez ce qui est important. Et les miettes, si c'est les miettes de notre temps, et des fois, vous êtes tellement fatigué de votre journée, franchement, vous n'êtes pas réceptif, quoi. Voilà, diapo suivante. Donc ça, c'est... On ne voit pas très bien, parce que c'est la nuit, puis c'est une rue mal éclairée. Donc c'est normal, hein. C'est... Donc sur la diapo, il y a une rue mal éclairée. Et puis, donc, l'histoire, c'est que... Donc, il y a quelqu'un... qui a perdu ses clés et qui est en train de chercher. Il est là tout seul à chercher dans la rue. Puis il y a un passant qui passe et lui dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Vous avez perdu quelque chose ?» Il dit « Oui, j'ai perdu mes clés. » Donc ils se mettent tous les deux à chercher. Et puis au bout d'un certain temps, le deuxième homme il dit « Mais vous êtes certain que c'est ici que vous les avez perdus ?» Il dit « Non, c'est pas ici que je les ai perdus, sans doute pas. Mais il y a qu'ici que c'est éclairé. » Donc... c'est pas parce que c'est éclairé là que c'est là qu'il fallait chercher, quoi. C'est tout bête, mais ça nous arrive, quoi. Voilà. Chercher à la bonne place. Alors, ni à droite ni à gauche, dans Proverbes 4, 26 et 27... quelque chose qui nous, qui nous illustre bien ça. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Une autre traduction qui peut préciser un petit peu, que tes yeux regardent bien en face, droit devant toi, et ne dévie pas de ton chemin, ni à droite ni à gauche. C'est clair, hein? Et me venait aussi le texte de Michée 6,8, là, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Le Seigneur nous a fait connaître. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Focus sur la volonté de Dieu. Focus, c'est en optique avec soit des microscopes, soit les zooms des appareils photo. On met au point et on peut voir éventuellement très très loin quelque chose qu'on ne verrait pas autrement. C'est vraiment ciblé de très très près. Donc focus sur la volonté de Dieu. Sachant que ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc franchement, qu'est-ce que vous voulez chercher de plus ? Bon, agréable et parfait. Et donc, gardons le cap sur le chemin, et en fait, qui n'est pas souvent très éclairé, ce chemin-là. Et dans le psaume 119, 105, verset 105, pardon, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Encore, hein, c'est tout petit éclairage, juste à nos pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et souvent, un pas en éclaire un autre. Et avec le Seigneur, il y a des vraies assurances, des vraies certitudes. Et puis, il faut mettre un pas devant l'autre quand même. Quand Robert, tout à l'heure, faisait cet appel à, si vous étiez touché, vous sentez appelé par donner votre vie au Seigneur, je te donne tout, à faire un pas. Quelquefois, ça peut paraître très très difficile parce qu'il y a l'inconnu derrière. Et quand je vous dis un pas en éclaire un autre, c'est qu'avec le Seigneur, ce qui est certain, c'est que sa main est puissante pour vous tenir. Et si vous faites un pas avec lui, le pas suivant, je peux vous dire qu'il sera toujours là. Et jusqu'au dernier pas. Et nous, avec nos raisonnements, eh ben on préfère que tout soit bien prévu d'avance, quoi. On a préparé le voyage, quoi. Tout est dans la voiture, la valise est bien triée pour avoir juste les affaires qu'il nous faut pour les vacances. Le GPS, tout. En fait, dans le monde, enfin dans le travail, on parlait du zéro défaut, on veut toujours ça. Dans la vie, on veut tellement d'assurance pour ceci, pour cela. En fait, on ne veut plus de risques, quoi. Mais la vie est un risque. Et avec le Seigneur, on ne sait pas tout d'avance. Ça, c'est certain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous tiendra la main jusqu'au dernier pas. Et j'avais je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais quelque chose d'écrit, ça date vraiment, qui était donc sur un texte que j'avais dans ma Bible. Celui qui t'envoie est aussi celui qui t'accompagne. Je n'ai pas retrouvé l'origine de ce passage. Celui qui t'envoie est aussi celui qui t'accompagne. La fidélité de Dieu. Alors quand Jésus a envoyé ses disciples en mission pratique, hein, il y avait eu l'enseignement avant, après travaux pratiques, il envoie les 12 en mission, et puis il leur dit, prenez pas de valise, pas d'argent, pas de tente, etc. les affaires extérieures, il ne s'en est pas préoccupé, mais il a dit, vous trouverez, vous irez, des gens qui vont vous accueillir, quoi. Parce que la mission la plus importante, ce n'était pas celle-là, ce n'était pas de s'occuper des affaires secondaires, de la tenue, d'avoir leur bourse bien pleine. La mission, elle était précise, c'était autre chose. Et la mission, c'était d'annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, de prier pour les malades, de prier pour ceux qui avaient besoin de délivrance, d'annoncer la repentance et le salut. C'était quelque chose de très précis. C'était, et ça m'est revenu l'idée, j'ai dit, ah ben oui, ils sont partis là. Ben, c'est comme si là, Seigneur me disait, ben, mais, vas-y, je ne sais pas, à Berlin. Non mais j'ai pas pris. Non, mais vas-y, tu trouveras. Et en fait, c'est quand même bien différent de souvent notre façon de faire, parce qu'on va rajouter des choses et des choses. Quoi. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, ramenez-vous sur l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu a prévu, quoi ? Quelle est la mission, l'objectif premier, quoi ? Donc le dessein de Dieu en premier, votre destinée préparée d'avance. Et parce que nous n'avons pas tous la même non plus. Donc n'essayons pas de ressembler à ceux que le Seigneur a mis à nos côtés, qui peuvent être nos amis. Pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose de précis. Quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Et c'est important de le réaliser parce que le Seigneur a mis en vous certains talents que moi j'ai pas, que Robert n'a pas, que Corneille n'a pas, qui sont vraiment précis pour que vous entriez dans ce qu'il a prévu. Mais il a prévu aussi, comme le vase sur le tour du potier, de continuer à vous former et à vous modeler. Donc n'essayons pas de ressembler à quelqu'un d'autre, notre destinée est unique. Et donc oui, ça ne nous dispense pas du conseil de Dieu, bien sûr, au quotidien, sur la marche, et du conseil de nos frères et sœurs qui sont à côté. Je rappelle que l'Église est un corps, il n'y a pas une cellule toute seule en vadrouille, qui peut faire quelque chose, quoi. Et souvent, ces frères et ces sœurs-là sont juste à côté de vous pour vous aider, pour vous compléter. Dans le chapitre sur les inquiétudes, Matthieu 6, 34, il nous est dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez ça, hein ? Et alors, quelque chose qui va nous voler tout simplement notre bonheur, c'est de vivre dans le passé ou dans le futur. Ni l'un ni l'autre. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Le Seigneur n'a pas prévu qu'on vive dans le passé ou dans le futur. On n'est pas équipé pour ça. On est équipé pour vivre cette journée. À la fois en profiter, dans le sens avoir un cœur ouvert sur les gens, les personnes que nous rencontrons, un regard, un cœur ouvert aussi sur ce que nous voyons. Et de discerner à la fois les bontés de Dieu et la beauté de ce qu'il a mis devant nous. Sans ça, notre cœur, il peut être insatisfait. On n'est pas dans le présent, quoi. On est dans l'hier, on est dans le futur, on est mais celui-ci, mais celle-là. Mais non ! Vivez aujourd'hui tel que vous êtes, des enfants bien-aimés de Dieu, sans vous laisser distraire par peut-être des désirs. Je vous ai parlé de besoins et non pas de désirs qui peuvent vous mentir et vous rendre malheureux aussi. Et donc si le passé vous accuse, et si le passé vous continue de vous déranger, remettez ces choses-là à la grâce de Dieu, qui est tout-puissant pour nous pardonner. non pas une fois, non pas une seule fois nous pardonner, mais à chaque fois que nous en avons besoin. Et si après le diable nous accuse, s'il nous rappelle notre passé, eh bien vous lui rappelez son avenir. Amen. Et nous, notre avenir, ouais, c'est, si vous en préoccupez, notre avenir, il est dans la main de Dieu. Jusqu'au bout. Donc, peser ou passer au crible, parce qu'en fait, notre vie, hein, quand nous-mêmes, on peut la regarder, mais le Seigneur la regarde aussi, il peut nous dire, mais il y a des choses qui n'ont pas pesé bien lourd, quoi. Et passer au crible, c'est le tamis. On peut tamiser du grain, par exemple, pour garder que le grain et enlever donc toutes les balles, toutes les coques du blé, toute la paille qui reste, quoi. Et on ne garde que ce qui est bon. Et donc 1 Corinthiens 3, 9. Qu'est-ce que j'ai mis ? Non, c'est 1 Corinthiens 3, oui, 9 à 15, oui. Pardon. J'ai plusieurs chiffres là devant moi. Donc, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu. Et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme à travers d'un feu. Donc voilà le regard que Dieu a sur ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire hein, de notre vie, mais pouvons faire dans un cadre religieux. Le Seigneur pèse tout et sait si ces choses viennent de lui ou si c'est de notre pensée ou si c'est de une conception qu'on a eue. Donc c'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Ramène-moi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à l'essentiel, à ce que tu veux, à ce que tu désires. » Et que je ne me perde pas dans des choses futiles qui consomment mes journées, qui au final me rendent mal, ou alors je me suis diverti, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et à la fin d'une journée, on peut faire cet examen, mais si c'est à la fin d'une vie, c'est beaucoup plus dramatique. Et il y a l'exemple d'une abeille qui butine. Je ne sais pas si vous avez regardé. Alors, elle ne passe pas beaucoup de temps hein, sur chaque fleur. C'est incroyable. On n'arrive pas à l'arrêter. Et donc, l'abeille qui butine et saute de fleur en fleur. Bon, elle fait un beau travail hein, parce que franchement, le miel, tout ça, c'est extraordinaire. Mais ne soyons pas des abeilles qui butinent de fleur en fleur. Et en fait, nos regards, notre attention, elle peut passer comme ça de fleur en fleur. Et notre journée, notre vie, elle peut passer de fleur en fleur. Ça nous a occupés, ça remplit notre temps. On ne s'est pas ennuyé, pas une minute. Mais au final, qu'est-ce qu'on a devant nous, quoi ? Et souvent, on a... Bon. On l'entend peut-être moins maintenant, mais j'entendais les ministères à temps plein qui, forcément, sont des secours pour nous, peuvent nous apporter beaucoup. Et qu'on peut servir le Seigneur qu'en ministère à temps plein. Et le Seigneur, lui, il attend des chrétiens à temps plein. Chacun de nous, là où nous sommes. Là où nous sommes précieux entre les mains de Dieu. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que le travail, en général, que le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur vous a demandé d'accomplir, cette œuvre, elle est précieuse. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va la faire. C'est pour cela qu'elle est précieuse. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Alors maintenant que vous savez que le chemin est étroit, qu'on sait tous, prions les uns pour les autres, pour se garder, pour vraiment que nos œuvres soient concentrées sur ce que Dieu a prévu et non pas de nous laisser disperser à droite et à gauche par quelque chose, certes qui nous occupe, qui peut nous distraire, mais au final, à brûler notre temps. Amen. Je vais prier pour que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, nous ayons cette la main du Seigneur sur nous pour nous aider à conduire notre vie, conduire nos journées. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu nous as appelés, Seigneur, à venir auprès de toi dans ton royaume, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chacun de nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci parce que pour chacun, Seigneur, tu as mis, Seigneur, tu as prévu quelque chose, Seigneur, qui est une œuvre que tu as préparée, Seigneur. Oui, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que les uns et les autres, Seigneur, nous te cherchions, Seigneur, pour connaître ta volonté, pour connaître l'œuvre que tu as prévue pour nous, Seigneur. Quelles sont les choses essentielles de notre vie, Seigneur? Les choses essentielles dans lesquelles tu veux nous conduire, Seigneur. Garde-nous de nous disperser à droite et à gauche, Seigneur. Seigneur, que nous... Oui, Seigneur, que notre focus y soit sur toi. Notre focus y soit sur ce que tu as prévu, Seigneur. Garde-nous dans ce monde, Seigneur, de distraction. Oui, Seigneur, qui veut nous entraîner à droite et à gauche, Seigneur. Et toi, tu nous dis, ne regarde ni à droite ni à gauche, Seigneur. Merci de nous aider les uns les autres, Seigneur. Nous sommes un corps, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que pour chaque partie du corps, Seigneur, tu as prévu que ne regarde ni à droite ni à gauche, Seigneur, mais qu'il fasse ce qu'il a prévu, Seigneur. Et que ce corps fonctionnera bien, Seigneur. Si chacun de nous, nous sommes dans la vocation, Seigneur, dans le dessein, la destinée que tu as prévue pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, viens à notre aide, Seigneur, encore. Merci, Saint-Esprit, de renouveler ces choses, Seigneur, dans le cœur des uns et des autres. De placer, Seigneur, peut-être ce que je n'ai pas dit, Seigneur. Placer ce qui est important, Seigneur, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, de mes amis, Seigneur. Seigneur, nous désirons que ton Église soit belle, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'elle n'ait pas des trous, Seigneur, dans tous les côtés, Seigneur, comme un bateau qui va couler, Seigneur. Oui, Seigneur, comme un tout petit trou, et puis la coque va se remplir. Finalement, ça va peut-être prendre une année, Seigneur, mais elle va finir par se remplir. Seigneur, merci de nous aider à discerner, Seigneur, les petits trous, Seigneur, dans notre vie qui sont des fuites, Seigneur. Merci, mon Dieu, de ton assistance, Seigneur. Et merci pour ta bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen.